Dan Mag, T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titane Mag, avec la complicité de l'ami éclairé,
Dominique,
avec nous au micro, et de l'ami fidèle, Laurent, à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ces inspirations de l'instant et son désir imminent.
Janvier, premier mois de l'année, mois des bonnes résolutions, des vœux de toutes sortes. Notre invité de ce soir est celui d'un monde plus harmonieux, plus paisible, la passion des voyages, à la découverte d'autres gens, d'autres cultures, d'autres manières de vivre l'art. Pour inspiration, la nature au cœur du tissu, cette trame imbibée, colorée, la trame du temps qui passe entre croisements galactiques, forces qui s'entrechoquent, paysages de montagnes en technicolore, foisonnement d'arbres, carrés d'herbes folles. L'équipe du Titane Mag a le plaisir de recevoir une artiste plasticienne, Vio. Bonsoir Vio, et merci de nous faire partager votre univers, votre cheminement artistique. Vio est votre nom d'artiste, pourquoi ce choix?
Alors Vio, c'est le diminutif de Violette, parce qu'il y a un certain temps, j'écrivais des textes que je nommais Violette. Et un jour, j'ai une amie qui est venue à la maison, qui s'appelait Brigitte Laugier, et son nom d'artiste était Brig Laugier. Et dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour. De Violette, c'est passé à Vio, et c'est devenu mon nom d'artiste.
Alors, toute petite, vous sentiez-vous déjà une artiste? Et quelle formation avez-vous suivie?
Alors, toute petite, j'ai toujours faire un petit peu de dessin, de peinture. J'adorais les coloriages, j'adorais à la fois faire presque du land art. Enfin bon, je m'amusais beaucoup avec les plantes dans les jardins, etc. Et puis, j'aimais patouiller, enfin, travailler un peu la terre. Et puis, j'avais quand même une grande sensibilité pour les couleurs. Et je rêvais d'aller aux Beaux-Arts, mais mes parents n'ont jamais voulu. Ils m'ont dit non, non, hors de question que tu sois artiste. Donc pour leur faire plaisir, j'ai commencé par faire des études pour enseigner les travaux manuels. Et donc j'ai enseigné effectivement les travaux manuels, qui sont devenus éducation manuelle et technique, puis technologie. Et dès que j'ai eu 15 ans de service, j'ai dit ciao, je fais autre chose. Et j'ai lâché l'enseignement pour des études de design dans un premier temps, pendant 2 ans, et explorer donc la terre d'abord, beaucoup de céramique, et puis les peintures, les pigments. Et maintenant, donc, je suis dans la peinture, dite abstraction lyrique, mais bon, je peins sur beaucoup de supports différents.
Vio me fait penser à un subtil papillon qui délicatement dépose ses couleurs sur le tissu. Mine de ne pas y toucher, il y a dans son travail un geste séculaire qui se manifeste quotidiennement. Cette légèreté apparente cache de longs moments de répétition et de minutie. Vio n'est pas immédiatement venu à la peinture, comme vous l'expliquez. Et de formation de professeur de travaux manuels, elle passe une année de stage de tournage en Australie. J'imagine qu'elle rencontre et se confronte alors avec l'art dit primitif ou l'art brut de ce pays. Vio continue sa recherche en se mettant à la céramique, puis dans l'art du raku. Elle reprendra des études de design pour finalement toucher à la peinture. Et ce n'est pas tout. Vio continue à naviguer entre sculpture et poésie. Tout cela s'exprime en douceur et en bruissement de tissu.
Donc, alors Vio, pourquoi le choix de ce support, le tissu?
Pour moi, le tissu, c'est un peu comme une peau. Et en fait, dans la vie, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu toutes les blessures, toutes les cicatrices, toutes les traces qu'on a sur le corps. Mais bon, comme je n'ai pas envie de travailler sur des... Je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas infirmière. Moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est de montrer un petit peu... travailler sur ses peaux, enfin des peaux, et comme le tissu, ça rapproche le plus de cette histoire de peau. Et puis, je crois que j'aime la répétition des gestes, j'aime froisser le tissu, j'aime la matière, en fait. Donc, pour moi, c'est le meilleur des supports. Enfin, bon, je peux le chiffonner, le plisser, et puis après, lui donner un effet peut-être passé, alors que j'ai horreur du repassage.
C'est une sensation très sensuelle, quelque part. C'est un peu cette recherche.
Oui, tout à fait. Oui. Pour moi, j'ai besoin d'être en contact avec la matière. J'ai besoin de déposer ces couleurs. J'aime bien l'histoire de papillon, d'envol. Mais en même temps, dans mes gestes, c'est un peu les gestes de mes grands-mères qui lavaient le linge au lavoir, qui répétait pour enlever les taches, etc. Et moi, je répète pour faire des taches et pour mettre de la couleur.
Alors, justement, votre écriture picturale est inspirée des gestes des lavandières, de vos grands-mères, de nos grands-mères. Ce retour à la tradition est-il un geste porteur de mémoire ?
Oui, pour moi, ce sont des gestes qui essaie de traduire justement toutes ces mémoires, toutes ces émotions, toutes ces choses qui s'accumulent, qui marquent le temps. Et oui, c'est ça qui m'intéresse.
Et vous dites aussi que vous faites corps avec le support, comme le souffle est utile aussi pour la calligraphie. Est-ce que ces gestes, cette empreinte des plis, est-ce que cela vous emporte au-delà du temps et aussi au-delà de vous-même ?
Oui, tout à fait. Pour moi, la peinture, quand j'entre dans la peinture, c'est un peu comme entrer en transe. C'est comme, c'est comme si j'étais dans un autre monde. Et donc, oui, j'ai besoin de support, de tissu et puis des couleurs. Et en même temps, c'est comme si j'étais ailleurs. Mais je ne prends pas de produits extraordinaires. Ce sont que les couleurs et le temps qui me permettent de...
Et vous trouvez avec le tissu ce que vous n'avez pas trouvé avec la céramique. Pourquoi ce basculement céramique et le raccou est passé au tissu?
Alors ça, c'est une histoire de feu, en fait. Parce que quand je faisais de la céramique et du raccou, j'étais obligée d'être patiente, d'attendre que le feu, que le four chauffe et qu'il transforme les couleurs. Et puis, au bout d'un moment, je crois que je suis devenue trop impatiente. Donc là, j'aime avoir les couleurs en direct et pouvoir les manier, les organiser, les faire se rencontrer, en direct.
Alors, comment travaillez-vous ? Quelle est la technique ? Le choix des couleurs, le choix des tissus ? Comment faites-vous ce que vous faites, hein ?
Oui, alors donc, dans le choix des tissus, il y a le premier choix donc, qui se passe dans le magasin ou sur le marché. Parfois, je suis attirée par un tissu. J'aime farfouiller, j'aime... Quand je vais à Paris, je vais au marché Saint-Pierre. Et j'ai acheté un tissu de velours violet qui était magnifique. J'ai juste eu un coupon. Et qui m'a permis de faire ma dernière toile. Et c'est une rencontre avec donc, un morceau de tissu. Et après, c'est l'exploration. Dans le choix des couleurs, ça vient un petit peu naturel. Enfin, pas naturellement, mais parce que j'ai quand même beaucoup d'heures de pratique, beaucoup d'heures de vol. Mais je commence souvent par une couleur et ça s'enchaîne. Il y a une autre couleur qui vient et ainsi de suite. Et je ne peux pas vraiment dire quel est le contrôle. C'est un peu instinctif, un peu presque animal. Bon, même si j'aime pas trop parler dans ces termes, mais en même temps, je sais que c'est animal.
Alors, comment ça s'articule ? C'est une couleur d'abord, puis une autre ?
Oui, après le choix du tissu, il y a souvent un fond sonore que j'installe dans mon atelier, qui est souvent, comme je disais à Titane avant de préparer l'émission, j'écoute souvent Gurumul que vous écouterez, je vous ferai entendre tout à l'heure, parce que c'est un musicien aborigène et non-voyant, Et j'aime beaucoup, beaucoup sa musique. Et c'est ce qui permet, je pense, de partir dans la peinture, dans les couleurs. Et c'est ce qui m'aide à choisir donc une couleur après l'autre. Enfin, et en général, je lave pas le pinceau. De toute façon, je travaille pas avec des pinceaux. Donc c'est vite vu. Je travaille avec des rouleaux en mousse. Mais je ne lave pas le rouleau entre deux couleurs, c'est-à-dire que les couleurs s'enchaînent, elles se mélangent, elles se fondent les unes après les autres. Mais je ne peux pas vraiment dire comment je fais.
Et alors, les plis, alors, viennent après ?
Alors, non, les plis, ils sont... Parce que je travaille toujours sur du tissu libre. J'aime la partie liberté de la matière, donc je plie le tissu, je roule dessus donc avec les rouleaux et je déplie et je replie, mais je laisse sécher. Donc il y a quand même une histoire de patience aussi entre différentes étapes. Et il y a souvent plusieurs toiles que je fais en parallèle, parce que bon, comme il y a les temps de séchage, mais il faut pas perdre de temps parce que on va pas faire non plus. Que ça, je commence une toile, après j'en continue une autre, après il y en a une autre qui revient. Je suis une passionnée de mouchoirs aussi, parce que pour moi le mouchoir c'est le plus petit support d'émotion et le plus fort. Donc j'ai aussi un tas de mouchoirs dans mon atelier, et de temps en temps je peins sur un ou deux ou trois mouchoirs. Enfin, et j'ai des fils dans mon atelier avec des pinces à linge. Donc j'étends mon linge peint comme mes grands-mères étendaient le linge.
Et après, comment est-ce qu'on garde ces tissus ? Il y a un fixatif ? Comment la couleur se garde ?
Alors après, certains tissus sont vernis, mais la plupart du temps, je mets du liant acrylique naturel dessus, qui fait aussi que le tissu est rigidifié, et c'est comme s'il était amidonné. Donc, c'est des facsimilés, comme on dit.
De genre de cire que vous...
Non, ça rigidifie comme si on abidonnait.
Et avez-vous envie un jour de tisser vous-même vos tissus ?
Dans le cadre de ma formation pour être prof de travail manuel, j'ai fait un peu de tissage. C'était assez passionnant. Mais c'est pas ça qui... Enfin, non, ça retient pas vraiment mon intérêt.
Comment démarrez-vous un travail ? Est-ce que... sur quoi vous basez-vous ? Une musique, une parole, de l'écriture ? Un moment fort de la journée ?
Alors, la plupart du temps, je peins le matin, surtout. Et il m'arrive souvent d'écrire quelques mots dans le bus entre ma maison et mon atelier. Parce que pour moi, les mots sont un peu des tremplins. Donc, quand j'ai certaines émotions, je me dis, ah, mais comment je pourrais dire, etc. Donc, je jette quelques mots sur mes petits carnets. J'ai toujours des petits carnets, souvent des carnets inachevés, mais bon, j'ai des petits carnets souvent sur moi. Donc je jette quelques mots, et puis quand j'arrive à l'atelier, ben, ce sont ces mots qui me servent un peu de tremplin pour après peindre. Bon, il m'arrive aussi de prendre les mots des autres, c'est-à-dire de travailler avec des poètes, et puis d'illustrer, d'essayer de mettre des couleurs et des formes en résonance avec les textes des auteurs.
It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. but oh my dear, our loving is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay, but our love is here to stay.
Couleur FM 97.1, avec notre invité Vio, nous venons d'entendre Billie Holiday dans une composition de Gershwin, Love is Here to Stay, de l'album Lady Sings the Blues.
Alors, vous avez choisi de vous exprimer par le biais de l'abstraction. Est-ce que c'est un choix de toujours? Est-ce que c'est un choix définitif? Et pourquoi l'abstraction plutôt que le figuratif?
C'est vrai, beaucoup d'artistes sont passés par la figuration avant d'arriver à l'abstraction. Moi, je suis passée de la céramique à la peinture sans avoir j'ai eu envie de faire de la figuration. Alors, ça m'interroge. Parfois, je me dis, mais peut-être que je vais y arriver un jour. Peut-être que ça va me plaire, j'aurai envie. Mais pour l'instant, non. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui me permet d'exprimer mes émotions et puis tout ce que j'arrive pas à dire avec des mots, je le dis avec des couleurs.
Alors tout à l'heure, vous avez parlé des mots, hein, des mots que vous notiez avant d'aller à l'atelier. Mm-hmm. Et alors, des mots à l'abstraction, comment on fait?
Alors, oui, les mots, des fois, ce sont des petites réflexions, des petites...
Des sensations.
Des petites sensations, oui, des impressions de légèreté ou alors de choses plombées. Donc après, ça influence donc sur les couleurs.
Il y a une question d'humeur aussi, selon l'humeur du matin.
Les jours où je ne suis pas en forme, je ne peins pas. Parce que je peins avec beaucoup d'énergie. Donc les jours où il n'y a pas d'énergie, c'est pas la peine. C'est parfois difficile, mais bon, j'accepte maintenant.
Est-ce qu'elle peut venir on peut être pas bien au début, et puis tout d'un coup, il peut se passer quelque chose qui fait qu'on retrouve cette énergie, ou pas du tout, où on n'a pas d'énergie, on fait rien.
Ah, mais c'est marrant parce que des fois, il y a des petits trucs de pas grand-chose. C'est-à-dire, des fois, j'arrive à l'atelier et puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin bon, c'est pas possible. Donc, je vais me promener. Et alors, mes terrains de prédilection, c'est soit la nature, les arbres, la forêt, la nature m'apaise, ou l'eau, donc je vais le long de l'Isère, ou alors je vais sur les marchés. Et alors là, sur les marchés, moi, je trouve ça fabuleux parce qu'il y a tous ces échanges entre les gens, ces bribes de conversation, ces farfouillis de couleurs. J'aime beaucoup tout ce qui est effectivement textile, mais aussi tout ce qui est de l'ordre des brosses, des éponges, des machins comme ça, enfin bon, du bric-à-brac, quoi. Les seaux, les cuvettes, des trucs en plastique qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Enfin bon, mais pour moi, je trouve ça drôle et puis ça m'inspire. Et parfois, au bout de quelques temps comme ça sur le marché, je dis, mais ça y est, il faut que j'aille à l'atelier, c'est pas possible, ça vient, c'est revenu. Et voilà, et je rentre à l'atelier, je cours presque à l'atelier et ça part. Et ça,
c'est parti. Et ça se traduit ensuite dans les couleurs, dans ce que vous...
Oui, ben oui. Après, c'est bon. Je peux pas dire que tel seau de telle couleur se retrouve à tel endroit. C'est comme telle bribe de conversation que j'ai récupérée, que j'ai entendue entre tel vendeur et tel client. Non, mais c'est des petites choses, quoi. C'est comme des petits éclats de vie, des petits éclats de bonheur, de malheur, de tristesse ou de joie. Enfin.
Vous parlez du non figuratif, mais malgré tout, on retrouve dans vos peintures de l'écriture qui est un peu, ou de la calligraphie qui est un peu, qui s'échappe de l'abstraction.
Oui, c'est vrai. Et puis, il y a même beaucoup de gens qui voient des personnages dans mes tableaux. Moi, je ne les vois pas forcément parce que quand je les vois, ça me dérange. Donc, c'est vrai. Enfin, de toute façon, dans l'abstraction, il y a toujours un peu des choses qui passent.
On peut reconnaître aussi parfois certains paysages.
C'est vrai aussi, oui. Comme je vis en montagne, je pense que je suis quand même assez imprégnée l'aspect de la montagne, ces plans un peu coupés, ces roches, je pense que parfois, oui, on sent que je suis dans cet univers.
Alors, est-ce que c'est dû au pli? Est-ce qu'il y a une façon de plier le tissu pour orienter telle ou telle ligne sur le tissu, telle ou telle oblique? Est-ce que vous êtes aperçu qu'en changeant, est-ce que les plis ont de l'importance?
Alors, il y a les plis qui, oui, mais il y a la matière qui réagit différemment. C'est-à-dire que si je peins sur du velours ou sur un tissu plus sec, ou une toile plus épaisse, les plis sont complètement différents. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et puis, il y a des fois, j'ai un peu la hargne, la niaque, je ne sais pas comment on peut dire, mais du coup, j'écrase le tissu et on a des effets différents. Parfois, je suis plus dans la douceur, dans la légèreté, donc les impressions sont différentes.
Il y a toujours cette part d'aléatoire, comme on la rencontre dans le raku, c'est aussi cette part d'aléatoire. Enfin, vous êtes surprise aussi par ce que vous faites, qui est passionnant.
Ah oui, c'est ça qui m'intéresse.
Vous dites vous-même que votre expression est empreinte d'authenticité, et de spiritualité. Alors, d'authenticité, d'accord, on comprend, vous avez les paysages, etc. Et puis, la spiritualité. Qu'entendez-vous par spiritualité?
Alors, la spiritualité, je pense... ça fait partie de mes recherches aussi. Enfin bon, je ne crois pas forcément en un dieu, je ne suis pas bouddhiste. Mais ça m'intéresse de naviguer un peu dans des eaux où je me dis peut-être qu'après la vie, il y a quelque chose. Peut-être que... Voilà, donc...
c'est toujours cette recherche, ce questionnement.
Oui, c'est un questionnement. Oui, oui, c'est toujours ce questionnement. Oui, qu'est-ce qu'il y a après la vie? Et puis, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, ça, je sais que bon, on est bien obligé de faire quelque chose, d'avancer sur son chemin, quoi. Je suis persuadée que chacun a un chemin, chacun a une mission. Et puis, c'est ça. Je fais un peu de... Je cherche.
Il y a aussi un questionnement sur notre passage sur Terre. Est-ce que vous voulez laisser des traces? Est-ce que vos tissus sont des traces de vous-même?
Effectivement, enfin... Oui, j'ai l'impression... Mais enfin, c'est pas vraiment consciemment. Enfin, j'ai pas forcément envie de laisser ça ou ça. Par contre, il y a des choses que j'ai envie de dire, que j'ai envie de crier, mais que je n'arrive pas à crier, que je n'arrive pas à dire, mais que je sais que peindre. Donc après, enfin bon, quand je faisais de la céramique, c'était assez confortable. Je cassais beaucoup, donc je détruisais beaucoup au fur et à mesure que je créais. Là, les tissus, je les accumule, mais j'arrive pas à les jeter. C'est vrai que j'accumule un peu des traces. Et, oui.
Et pourquoi est-ce que vous cassiez vos céramiques?
Parce que j'avais l'impression qu'elles ne servaient à rien. Donc, voilà. Donc, mais bon, dans Vio, il y a aussi violence. Donc, je pense que quelque part, c'est pas neutre.
Et... qu'est-ce qui vous donne ces coups de colère ou ces coups de tendresse en général?
J'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi. Je suis profondément émue, touchée par tous les gens qui sont à la marge, tous ceux qui vivent dans la douleur, qui n'ont rien. Et puis, j'ai l'impression que je ne peux pas faire grand-chose. Donc, quelque part, c'est un peu une sorte de colère que je marque, que je mets en couleur.
Parce que si je reprends certains titres de vos carrés, tels que « Éveillez-vous », ça nous rappelle aussi quelqu'un qui avait dit « Réveillez-vous », « Carré de vie »,« Passion »,« Amour flou », »,« Hésitation », »,« Clair de lune », »,« Partage », tous ces mots-là vous définissent?
Oh oui, je pense. Oui. Et si je pense à mes derniers titres d'expo, il y a Voyage secret. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Passage. Voyage secret, passage. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est secret.
Mmh. Et vous trouvez donc ces mots avant, vous avez le thème et vous faites les... vos tissus après, ou c'est le contraire? Vous faites les tissus et vous trouvez le titre?
En fait, pour une exposition, c'est... en général, je trouve le titre en fonction du lieu et en fonction du moment. Enfin, si c'est une expo personnelle, le titre vient après les œuvres, en fait. Mais c'est comme si c'était un petit peu un chapeau, enfin bon, pour une période de la vie.
Oui, j'aimerais savoir comment vous faites pour choisir vos couleurs. Est-ce que c'est vos couleurs qui s'imposent à vous, ou est-ce que c'est vous qui décidez? Comment ça se passe?
Alors, pour le choix des couleurs, en général, j'en choisis une qui s'impose, en fait. J'ai mes tubes qui sont posés là sur mon atelier, ma table d'atelier. Et puis en général, il y en a une qui m'appelle, qui se présente. Et en général, c'est quand même une couleur assez claire, parce qu'en fait, je cherche aussi beaucoup autour de la lumière. Donc je commence souvent par du jaune ou du clair, enfin du blanc, etc. Et après, donc, les autres suivent, elles s'enchaînent. Ça, je ne sais pas encore trop comment ça s'enchaîne, parce que j'aime aussi leur relation entre elles. Et j'utilise très très peu de noir. Mais il est en train de venir, le noir, je ne sais pas pourquoi. Mais jusqu'à présent, je n'avais pratiquement jamais utilisé de noir ou très très peu. Bon, j'avoue que je ne me pose pas trop de questions par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que je vis les couleurs, c'est-à-dire que je résonne avec elles, ou je ne sais pas trop. En fait, un jour, il y a déjà relativement longtemps, donc c'était en 96, je crois, j'ai fait une exposition, non, en 2001. J'ai fait une exposition à Paris, et puis il y a une vieille dame qui est venue me voir. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, vous savez, vous êtes une magicienne des couleurs. Et ça, ça m'a plu énormément parce que j'aime ce côté un peu magique qui me permet de traduire ce que je n'arrive pas à exprimer avec mes mots, avec la parole.
FM 97.1 avec Vio. Nous venons d'entendre la voix de Sade dans Give It Up de l'album Stronger Than Pride. Et voici un coup de cœur des lecteurs. avec Majolire, les passeurs de mots, partenaires de nos passions, complices de nos découvertes, avec le porte-parole Dominique Molin. Et merci, Dominique, de nous conter votre choix à nous faire craquer l'ossature.
Alors, je vais parler d'un superbe polar qui s'intitule L'Arc-en-Ciel de Verre, qui est de James Lee Burke. C'est donc un polar américain qui a été publié aux éditions Rivage en 2013. Deux mots de l'auteur, il est né en 1936, c'est donc un auteur de romans policiers. Et il est très connu quand il nous raconte les enquêtes de Dave Robichaud, qui est un adjoint au shérif quelque part en Louisiane. Et Bertrand Tavernier avait tourné un film somptueux à partir d'un de ses romans, Dans la brume électrique. Il avait parfaitement capté l'atmosphère qu'on trouve dans chacun de son bouquin. Donc ça, c'est le 19e volume qui est consacré à un flic pas tout à fait comme les autres, qui est un ancien du Vietnam, alcoolique repenti. C'est une figure assez répandue dans le polar américain. Puis à ses côtés, pour mener l'enquête, un détective privé, ancien flic, soupçonné d'avoir tué un de ses témoins, alcoolique invétéré. Le matin, il commence avec un whisky accompagné d'une bière, ou l'inverse, ça dépend. Les deux campères cherchent à expliquer la disparition de cette jeune femme, disparition qui n'a ému personne. Alors il y a une vieille famille aristocrate décadente, la famille Abélard, qui est prête à se débarrasser des propriétaires de la moindre parcelle pour agrandir leur empire. Et puis il y a une autre adjointe au shérif d'un autre comté, Emma Poche, qui est plus souvent au bar que sur le terrain pour mener les enquêtes. Et puis il y a une superbe figure à l'affaire qui est la fille du flic, un personnage absolument lumineux. Et puis il y a cette relation entre le père et sa fille qu'il a adoptée après l'avoir sauvée d'un avion en flammes lorsqu'elle avait 5 ans. Alors, je n'ai pas envie d'en dire plus. Alors, bien sûr, comme dans tous les polars, il y a une atmosphère glauque, mais ce n'est pas ça qui intéresse l'auteur. L'auteur, ce qui l'intéresse, c'est de nous parler de la nature humaine. Et je vais lire un passage. Alors, c'est en Louisiane, il y a la nature, il y a des passages très poétiques. Il y a le bayou, les bayous qui sont des arbres morts du Mississippi. Il y a des arbres, il y a le vieux pont en bois qui se lève tous les matins en faisant un bruit d'enfer pour laisser passer les bateaux. Donc je lis un passage de ce livre qui fait 450 pages et qu'on dévore. Le matin du lendemain de la visite de Victor Perkins à mon bureau, je me suis réveillé tôt dans la grisaille de l'aube, dans le bruit métallique du pont mobile de Burke Street. La brume venue du golfe s'était étendue sur le bayou Teke et restait suspendue au-dessus du sol et dans les chênes verts comme des bandes de serpillères grises. J'ai nourri Tripod et Snugs et je me suis préparé un œuf frit et un sandwich au bacon que j'ai emporté avec une tasse de café et du lait chaud jusqu'à une chaise pliante sur la pente au fond de mon jardin. Je me suis assis au bord de l'eau et j'ai pris mon petit déjeuner en regardant Tripod et Snugs descendre la pente pour me rejoindre, reniflant le vent, leur queue battant derrière eux. Les feux rouges et verts du pont mobile étaient noyés dans la brume, les poutrelles d'acier à peine visibles. À l'évidence, les grandes roues dentées qui lèvent et abaissent le pont étaient coincées. Puis j'entendis le mécanisme résonner bruyamment. Chaque moitié du pont se souleva à 45 degrés, et ce que je pris pour une énorme péniche se glissa dans l'espace ouvert et s'avança dans ma direction sur le bayou, un sifflement montant de sa poupe. Mais ce n'était pas un navire destiné à la mer. C'était un bateau à aubes du 19e siècle, avec deux cheminées cannelées, jumelles, une lampe brûlant dans la cabine du pilote, un noir massif à la poitrine nue, sans chaussures et vêtu seulement d'un pantalon de travail évasé, roulait et entassait une épaisse longueur de corde huilée à la proue. La porte latérale de la cabine était ouverte et à l'intérieur je distinguais un pilote au gouvernail, fumant une pipe de maïs et portant une casquette de marin à visière et un manteau bleu marine avec de gros boutons. Il parut m'observer, puis ôta sa pipe de sa bouche et toucha la visière de sa casquette. Je lui rendis son salut sans trop savoir ce que je voyais. Je pensais que le bateau était une réplique avec des hélices en dessous, appartenant peut-être à une attraction touristique. Mais je vis une femme en robe, à cerceau, debout, sur une coursive, me regardant comme si j'étais une bizarrerie qu'elle ne comprenait pas. Puis la poupe passa, à moins de 10 mètres de moi, le sol vibrant du grondement des moteurs à vapeur. Les cascades de vases et d'eau jaunâtre s'échappaient de la roue à aube. Je posais ma nourriture, me levais et regardais incrédule la poupe et la cabine illuminée, les rangées de cabines des passagers, la femme en crinoline à cerceau et la poupe du bateau, peu à peu enveloppée de brouillard, le ressac heurtant bruyamment le rivage. Alors, évidemment, il a des visions, ce Dave Robichaud, parce que, bon, de temps en temps, il a c'est un ancien du Vietnam, etc., etc. Mais c'est intéressant parce que souvent on a de ce genre de situation où l'auteur nous fait toucher du doigt les frontières entre le visible et l'invisible. Voilà, c'est un roman qu'il faut lire une fois, deux fois, trois fois.
Ça vous parle, ce roman, Vio? C'est votre genre de lecture ou...
Non, je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de roman, mais là, l'extrait m'a vraiment donné envie de le lire. Dans les derniers livres que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé le livre « Crisis » de Jim Fergus, donc qui est américain aussi, et puis « Mille femmes blanches » du même auteur.
Vous connaissez.
Oui. C'est un grand nom.
Et vous aimez aussi la poésie. Vous avez aussi illustré certains poètes, Charles Juliet, par exemple.
Oui, j'ai eu l'occasion de faire un poster, donc une illustration donc, sur un texte de Charles Juliet. Et puis j'ai aussi fait quelques illustrations, enfin quelques revues pour la Maison de la Poésie. Une poésie spéciale Vietnam en 96, je crois. J'ai fait des tirages de tête sur la danse, le corps en mouvement, quelques années après. Et en 2005, j'ai illustré aussi le Bacchanal spécial ivresse. Donc voilà. J'ai aussi beaucoup travaillé avec le Précaré. Et puis, et cette année, donc en 2013, le Précaré a fêté ses 16 ans et a fait une grosse exposition à la Bibliothèque d'études de Grenoble. Et j'avais une cinquantaine de tableaux pour illustrer donc, les titres et puis certains extraits de texte au moment de cette expo.
Alors, comment se passe cette collaboration avec les poètes ?
Eh bien, au lieu de prendre mes mots, je prends les leurs. Donc, et j'essaie de traduire avec des couleurs, des formes, ce qui a été indiqué. Donc, alors pour l'ivresse, ça a été un petit peu difficile au début, mais finalement, je pense que le résultat était assez intéressant. Et puis, avec le Précaré, je travaille surtout sur la mise en couleur. Enfin, je fais une sorte de cadre, en fait, autour des titres et puis pour des extraits de texte. Alors là, c'est pareil. Donc, j'essaie de partir sur des pistes qui traduisent un petit peu l'atmosphère des différentes revues.
Et là, ce sont des petits formats. Je sais aussi que vous faites des grands formats, vous faites des bannières, vous faites des formats en rond, en carré. Parfois, certains tissus sont mis en châssis, d'autres sont enroulés. Comment choisissez-vous ces différents formats ?
Alors, au niveau des formats, c'est vrai que je passe du mouchoir à la bannière. Alors ça, c'est aussi un petit peu mon amusement, c'est-à-dire de ne pas être tout le temps cantonné au carré ou à la chose un petit peu rigide, etc. Bon, parfois, ça m'énerve un petit peu aussi d'être très, très dispersé, en quelque sorte. Mais en même temps, bon, j'ai des séries comme ça. Donc, il y a des séries de disques. Je tends sur des cerceaux de jeux pour enfants. Après, il y a une bannière qui s'impose. Et puis, donc, les mètres de tissu se déroulent sur ma table de travail. Alors, c'est un petit peu comme un grand chantier, quoi. Donc... j'enroule, je déroule, etc. Donc c'est un peu comme une performance, en fait, mais que je ne fais pas en public, que je fais dans mon atelier. Et puis pour les mouchoirs, ça c'est comme si ils m'accompagnaient tout le temps, les mouchoirs. Il y en a toujours deux, trois qui sont à portée de main. Alors au début, c'était aussi parce que je n'aimais pas gâcher la peinture. Et je récupérais, enfin, il y avait les fonds de bac de peinture, comme voilà, certains artistes, ils font des petits gribouillis là, avec les restes de peinture. Mais moi, je peignais sur les mouchoirs. Je crois que c'est venu effectivement comme ça. Et puis ben, maintenant, enfin, des fois, je commence avec un mouchoir pour m'échauffer le matin. Donc voilà.
Les mouchoirs, ça sert aussi à pleurer?
Oui, bien sûr. Ça sert à dire adieu, ça sert à dire je t'aime, ça, enfin bref, ça sert à dire beaucoup de choses. Par contre, ceux que j'ai peints, comme je les rigidifie aussi après, ils sont un petit peu inutilisables.
Voyage ?
Oui, voyage.
Oui.
View voyage, Titane.
À travers le mouchoir.
À travers le mouchoir, et pas seulement à travers le mouchoir. Il faut savoir que vous apportent vos voyages.
Mes voyages m'apportent de la matière. Je suis quand même assez curieuse de nature. Et puis, j'aime bien aller un peu à l'aventure, découvrir un autre mode de vie, observer. J'ai eu l'occasion d'aller passer un an en Australie en 82-83, donc ce qui m'a permis d'aller à l'autre bout du monde en quelque sorte. Après, j'ai fait différents voyages par-ci, par-là, enfin bon. Et à chaque fois, je reviens avec plein d'images. Je fais beaucoup de photos. C'est ce qui m'aide aussi quand je suis un peu en panne au niveau création, au niveau couleur. Je regarde, j'ai des catalogues de photos, voilà.
Parce que vous avez la Chine, l'Australie, c'est vrai que ce sont des pays très, très différents des nôtres et qui sont marquants, même au niveau artistique.
Ah oui, là, je pensais plus à cette histoire de Canton. Je suis allée exposer à Canton pour fêter mes 50 ans, donc il y a quelques années. Et c'était une très, très belle expérience parce que, ne parlant pas le chinois, j'avais quand même des retours très, très intéressants des Chinois, notamment de profs d'art plastique de là-bas qui étaient avec leurs étudiants, avec lesquels je me suis fait photographier, etc., mais qui, donc j'avais ma petite traductrice qui me disait, mais vous savez, ils admirent beaucoup votre travail. Enfin, et alors moi, je trouvais ça drôle parce que eux, ils sont encore dans des choses relativement figuratives, mais ils avaient l'air de vraiment apprécier mon travail.
Est-ce qu'on peut dire que les voyages nourrissent votre expression ?
Ah oui, tout à fait, oui. Oui, je pense que j'ai besoin de voyage, parce que j'ai besoin de partir pour revenir.
C'est plus qu'une respiration.
C'est, pour moi, c'est indispensable. Enfin, ça fait partie de la vie, quoi, parce que sinon...
Nambah ular ungana
coming on.
FM 97.1 avec le choix de Vio, nous venons d'entendre Gourmoul. Et ce choix, Vio, c'est pour vous une écoute, un rituel ?
Oui, c'est le CD que j'écoute pratiquement à chaque fois que j'arrive à l'atelier. À la fois, mon atelier m'accueille et en même temps, voilà, c'est comme si on se parlait. Donc, je mets ce CD et puis... Voilà, ça fait partie des petites choses que je fais quand j'arrive à l'atelier.
Pour
se mettre en condition, pour pouvoir choisir les bonnes couleurs, le bon tissu, etc. etc.
Alors, quels sont vos projets, Bio ?
Actuellement, là, pour 2014, je dirais la coupe est pleine. Enfin, donc, j'ai deux très gros projets. Donc, le premier, je travaille avec d'autres artistes français, enfin, 5 artistes français et 6 marocains sur le thème de la liberté. Nous allons faire une expo collective à Grenoble International en février. Et puis après, nous irons au Maroc pour faire aussi une exposition à Marrakech et je ne sais plus trop où. Et mon autre projet, important, c'est une exposition personnelle à Port-Bail, donc c'est en Basse-Normandie. Et c'est la dernière semaine du mois de mai, c'est une ancienne église qui est transformée en lieu d'expo. Et je suis très contente de faire cette exposition, car c'est aussi un peu toute une aventure. via Facebook. Je suis une jeune Facebookeuse. Et j'ai découvert ce lieu donc par son intermédiaire et ça me plaît beaucoup d'aller exposer là-bas.
Y a-t-il un thème pour cette expo dans l'église ?
Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de thème, excepté que en 2001, j'avais eu un projet de livre qui s'appelait Des vies suspendues. Et là, pour cette exposition, j'ai envie que ce soit une autre histoire de vie suspendue, avec peut-être l'édition de ce livre qui est en suspens depuis longtemps.
Et vie suspendue, c'est... Vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, des vies suspendues, oui, c'est pour moi, c'est un très beau titre.
Justement.
Je suis toujours très, très interrogée. Enfin, je me pose toujours beaucoup de questions par rapport aux histoires de suicide, par rapport à la mort, enfin, bon, qu'elle soit naturelle ou pas. Et une vie suspendue, voilà, elle s'arrête, peut-être pas forcément au bon moment.
Et oui, ça vous laisse peu de temps dans votre atelier, dans vos recherches, parce qu'il y a toujours des moments de recherche dans ce que vous faites. En fait, c'est quotidien, ces recherches, mais...
Oui. Moi, j'ai l'impression que ma vie est faite de recherche, justement.
Comment voyez-vous votre travail dans le futur ? Est-ce que c'est un travail au jour le jour ? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que ça va devenir ?
Non, je n'ai pas vraiment l'idée de ce que ça va devenir. Je sais que tous les jours, je dois travailler. Tous les jours, j'expérimente des choses. Il y a à chaque fois des petits trucs comme ça qui font que j'ai toujours la foi dans cette recherche. Et puis... pour l'instant, je ne suis pas du tout lasse de ce que je fais. Au contraire, je suis... très très passionnée, je crois, et c'est ce qui me motive et qui me...
Votre travail entre artistes français et marocains, c'est une commande ou c'est une initiative qui vous appartient à tous?
C'est à l'initiative de quelqu'un qui s'appelle Chantal Legendre, qui avait des contacts avec des Marocains et puis qui a réuni donc quelques artistes français autour d'elle, donc poètes et plasticiens, et pour travailler donc avec un petit groupe de Marocains.
Une adresse pour terminer, Vio, on a envie d'en savoir plus, votre site.
Alors mon site c'est artvio.free.fr et mon atelier est au 48 rue Saint-Laurent à Grenoble.
Merci beaucoup Vio pour ce chemin parcouru avec vous. Merci Dan,
merci
Dominique, et puis merci Laurent à la technique. Et à bientôt, à vous suivre, Vio.
Merci à vous.
Merci.